Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Le gouvernement va demander au Parlement de l'autoriser à recourir au pass sanitaire jusqu'au mois de juillet 2022, si la situation sanitaire le justifie. Qui déciderait précisément qu'il y aurait lieu de le réactiver ?
Alors, pour que les choses soient claires, l'idée, c'est pas qu'on ait indéfiniment un pass sanitaire à présenter. L'objectif, c'est uniquement de se dire que si la situation l'exige, parce que vous avez un taux d'incidence qui devient plus important dans un département, par exemple, alors le pass peut être réactivé. L'idée, c'est probablement que ce soit les préfets qui puissent avoir autorité. Et après, évidemment, en lien avec les agences régionales de santé, c'est-à-dire concrètement, quelles sont les données médicales, scientifiques, quel est le taux d'incidence département par département. De la même manière qu'on baisse les contraintes. Par exemple, aujourd'hui, vous avez encore 12 nouveaux départements dans lesquels les enfants n'ont plus besoin de porter le masque parce que le taux d'incidence a baissé, donc c'est retiré à l'école. Si demain, malheureusement, la situation s'inverse dans certains territoires, dans certains départements, alors on doit pouvoir le réactiver de manière à nouveau à pouvoir mieux protéger les Français. C'est aussi simple que ça.
Nous évoquons là des scénarios de rétablissement du pass sanitaire, mais il n'a pas encore été supprimé, alors que pour l'instant, tous les indicateurs de l'épidémie sont au vert. Pourquoi n'est-il toujours pas supprimé ? Jusqu'à quand va-t-il être maintenu ? Encore une fois, dans ces bonnes conditions sanitaires, dans ces bonnes conditions épidémiques.
Et c'est aussi justement parce que le pass sanitaire
existe. Oui, mais dans ce cas-là, c'est sans fin.
Non, mais l'objectif du pass sanitaire, c'était quoi ? C'était d'inciter à la vaccination.
Ouais.
Clairement, ça a permis d'inciter à la vaccination. Mmh. On a bien vu qu'il y a eu un avant et un après pass sanitaire dans la dynamique de vaccination qu'on a eue dans notre pays. On est aujourd'hui d'ailleurs sur la troisième dose de vaccination. D'abord, de la même manière que pour les premières et deuxièmes, pour les publics les plus vulnérables, ceux qui ont des comorbidités, ceux qui sont dans les EHPAD, qui sont les personnes les plus âgées et qui sont en risque de manière plus criante face au virus et notamment face à ses variants. Et donc, encore une fois, l'objectif, c'est de lever au plus tôt le pass sanitaire. Mais ça, c'est aussi en fonction du taux d'incidence que ça doit s'évaluer, en fonction de la dynamique vaccinale que ça doit s'évaluer. Le pass sanitaire, c'est quand même une contrainte extrêmement raisonnable qui est posée, qui est uniquement de montrer un QR code quand on veut se rendre dans un certain nombre d'établissements. Je crois que c'est une contrainte qui a été complètement comprise et adoptée par les Français, qui est devenue un réflexe aujourd'hui quand vous entrez dans un restaurant, dans un théâtre, dans un bar. Et je crois que face au risque épidémique, c'était une contrainte tout à fait soutenable.
Mais pourquoi avons-nous encore si peur de ce virus avec le taux de vaccination très élevé qui est celui de la France aujourd'hui ?
Ben, parce que on a des variants qui peuvent continuer à se déployer, parce qu'on voit aussi que même si on a un taux de vaccination assez exceptionnel dans notre pays, qui était loin d'être acquis au début, souvenez-vous, au tout début de la campagne vaccinale, ce qu'on entendait sur le fait qu'on n'arriverait pas à faire vacciner les Français, 65% des Français en janvier étaient contre la vaccination. Donc la dynamique s'est complètement inversée.
Sous l'effet du pass sanitaire, qui est tout de même une contrainte,
faut le dire. Sous l'effet à la fois de la confiance que les Français ont eue dans la science, ont eue dans leurs médecins, dans toutes celles et ceux qui ont participé à la campagne vaccinale, parce qu'il y a eu un maillage sur l'ensemble du territoire, parce que vous avez des centres de vaccination, des médecins libéraux, des médecins du travail, des pharmaciens, enfin toutes celles et ceux qui ont pu vacciner ont vacciné, des infirmières qui l'ont fait à domicile, dans les EHPAD. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rassurant aussi de voir qu'on a à nouveau confiance dans la science et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner et encore une fois l'objectif n'est pas qu'éternellement nous ayons le pass, c'est uniquement de le maintenir tant qu'on estime que c'est nécessaire face au risque des variants notamment et qu'on puisse le réactiver si on avait malheureusement un risque de pic épidémique.
Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, veut qu'une proposition de loi allongeant le délai d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée d'ici à la fin novembre. Le président de la République a pourtant exprimé son opposition à cette idée. C'était l'été dernier, en estimant qu'au-delà de 12 semaines, je le cite, un avortement est plus traumatisant. Est-ce que vous êtes sur la ligne Castaner ou la ligne du président de la République ?
Alors, déjà, c'est une proposition de loi qu'on a déjà adoptée, nous, à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, c'est pas une proposition de loi nouvelle. Par contre, nous, on fait le choix en tant que groupe majoritaire. C'était une proposition de loi qui venait de l'opposition. Et on fait le choix de se dire, cette proposition de loi, elle doit aller au bout, déjà parce que les députés de la majorité souhaitent pouvoir voter cette proposition de loi. Après, c'est une question éthique. Et sur les questions éthiques, on peut évidemment avoir des divergences de vues, et c'est pas grave, et c'est plutôt sain que ce débat existe. Mais ce qu'a fait le ministre de la Santé, qui est favorable, Olivier Véran l'a dit, à l'extension de ce délai de recours à l'IVG, c'est qu'il a saisi la plus haute autorité éthique de notre pays, qui est le Conseil national consultatif d'éthique. Et à l'unanimité, moins une abstention, ils se sont tous prononcés en faveur de l'extension du délai de recours à l'IVG. Pourquoi on fait cette proposition de loi? Pourquoi on la soutient et pourquoi on souhaite la voter? Tout simplement parce que dans notre pays, on a encore des milliers de femmes qui, chaque année, sont contraintes d'aller à l'étranger parce qu'elles se retrouvent à la limite des délais légaux. Et c'est pas parce que ces femmes sont des irresponsables, c'est parce que vous avez une multiplicité de situations qui peut vous y conduire. Vous pouvez être sous contraception et ne pas imaginer une seule seconde que vous puissiez être enceinte et le découvrir très tardivement. Vous pouvez avoir des phénomènes qui sont heureusement très minoritaires mais qui existent, de délits d'entrave, où un médecin va refuser par exemple de pratiquer un IVG. La loi normalement l'oblige à indiquer à la patiente quelqu'un qui lui accepte de pratiquer l'IVG. Certains ne le font pas, désorientent. On a des horreurs qui circulent aussi sur Internet, qui vont culpabiliser les femmes. Bref, pour plein de raisons différentes, une femme peut, quel que soit son âge, peut se retrouver dans la situation où elle est à 11-12 semaines et où elle n'a plus d'autre choix.
Mais est-ce que d'aller à l'étranger, est-ce que le président de la République se trompe quand il dit que c'est plus traumatisant, ou est-ce qu'il a raison, mais qu'il faut outrepasser cette considération?
Mais ce qui est certain, c'est que, enfin, et je reprends les mots de Simone Veil, aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. Aucune femme. Ce qui veut dire qu'il faut évidemment être encore plus vigilant sur les enjeux d'éducation à la sexualité. Moi, ce que je constate, c'est que les mêmes qui sont en vérité contre l'IVG, pas contre juste l'extension des délais, contre l'IVG, sont les premiers à dire « il ne faut pas d'éducation sexuelle au collège et au lycée ». Les mêmes qui sont contre l'IVG refusent qu'on puisse, par exemple, comme on va le faire, permettre que la contraception elle soit gratuite pour tous les moins de 25 ans. Parce que si on veut qu'il y ait en effet moins de femmes qui aient besoin d'avoir recours à l'IVG, et personne ne peut se féliciter du fait qu'il y ait trop de femmes ou des femmes qui y recourent. Personne n'a envie qu'on ait besoin d'en arriver là. Personne ne le souhaite. Par contre, ça veut dire qu'il y a eu parfois des défauts avant sur des enjeux de prévention. Et que malgré tout, même quand vous êtes sous contraception, même quand vous êtes extraordinairement responsable, eh bien, il y a des cas qui arrivent. Et moi, je ne peux pas accepter que dans notre pays, on a encore des milliers de femmes qui soient obligées d'aller à l'étranger pour recourir à un droit qui, pour moi, est un droit fondamental et qui nous permettrait juste d'être dans la moyenne européenne. L'idée n'est pas d'étendre les délais à l'infini, comme j'ai pu l'entendre, mais juste de rester dans ce qui, pour nous, est une norme éthique et ce qui est à peu près existant dans les pays européens.
Il nous reste une petite minute, mais il y a tant de ma question, donc il va falloir que vous soyez bref dans la réponse. Et en parlant de l'Europe rapidement, puisque la candidature, pré-candidature d'Éric Zemmour a mis la question du droit et de la primauté du droit européen au cœur des débats. Aujourd'hui, de nombreux candidats à l'Élysée en France, hier encore Valérie Pécresse, affirme qu'en effet le droit national doit prévaloir sur le droit européen dans certaines matières. Qu'est-ce que vous inspire ce débat ?
Ce que ça m'inspire, c'est que malheureusement, là pour le coup, on a une primauté au populisme qui est en train de se passer dans la pré-campagne présidentielle. C'est-à-dire que les congrès, les primaires, peu importe leur nom, sont rarement une prime à la modération et qu'on a en permanence une montée du populisme dans notre pays. Et que ce populisme, il se fait aussi sur le dos de nos valeurs démocratiques et sur la question des valeurs européennes. Ce qui s'est passé, c'est la Pologne qui dit maintenant on fait fi du droit communautaire, du droit européen. Et nous, on considère en France qu'à la fois on peut être souverain sur ce qu'on fait dans notre pays, et c'est le cas, arrêtons de mentir aux Français, on est souverain en matière d'immigration par exemple, mais que oui, le droit européen et les valeurs qui sont les nôtres et que nous avons souhaité porter au niveau européen puissent prévaloir également.
Merci Aurore Berger, bonne journée.